écoutez les pipelettes.
Au micro, Miako, Louise et moi Laure. Aujourd'hui, nous allons vous raconter trois faits méconnus qui se sont déroulés un 25 avril.
Miako nous renvoie en 1792 avec l'invention de la guillotine. Laure nous parlera du baptême de l'Amérique en 1507. Et je finirai par vous présenter la révolution des œillets en 1974 au Portugal.
Très beau programme en perspective. Vous êtes bien installés? Les pipelettes, c'est tout de suite.
Ça a Miako de commencer.
On fait un bond dans le passé. Nous sommes en 1792 sur la place de la Grève à Paris. Sous nos yeux, nous assistons à la toute première utilisation de cette machine à exécuter, la guillotine, un instrument de mort qui a marqué l'histoire de la France et du monde. La guillotine, également connue sous le nom de la veuve, est une machine de mort utilisée pour exécuter des crimes condamnés à mort en France du XVIIIe au XXe siècle. Elle doit son nom à Joseph Ignace Guillotin, un médecin français qui a proposé son utilisation en tant que méthode plus humaine pour exécuter les condamnés à mort. La guillotine fonctionnait en abaissant une lame de fer tranchante sur le cou de la personne à exécuter, séparant ainsi la tête du reste du corps. L'ensemble de la procédure était généralement effectué en public, devant une foule nombreuse et curieuse. Bien que la guillotine ait été considérée comme une méthode plus humaine d'exécution que les autres utilisées auparavant, comme la décapitation manuelle ou la pendaison, elle reste une pratique brutale et inhumaine. La guillotine a fait plus de 16 500 morts pendant et après la Révolution française. D'ailleurs, l'utilisation de cette arme s'est notamment retournée contre le roi Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette.
Le député guillotin dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger les corps français de tous les gens approchés. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. À force de comploter lors de mutine, à gagner sans y penser, migraine maligne, pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera.
Cette machine à exécution a également été utilisée dans d'autres pays, notamment en Allemagne et en Suède. Aujourd'hui, la guillotine n'est plus utilisée comme méthode d'exécution dans aucun pays du monde. Cependant, elle reste un symbole de la mort. Cependant, elle reste un symbole de la peine de mort et de la violence qui peut être infligée envers les hommes. Sachez que le lendemain, le 26 avril 1792, Claude-Joseph Rouget de Lille écrit la Marseillaise, l'hymne de la France.
Écoutons à présent Laure nous parler d'une célébrité originale.
Merci Louise. En effet, je vais vous parler d'une star, mais pas n'importe laquelle. Une star qui, depuis ses débuts, a accueilli riches comme pauvres, explorateurs et touristes, républicains et utopistes, des gens du monde entier, petits et grands, gentils et méchants, et qui reste aujourd'hui celle que l'on veut rencontrer et découvrir à tout âge, c'est bien entendu l'Amérique.
Mesdames, l'Amérique,
je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde connaît l'Amérique. Mais connaissez-vous l'histoire de son baptême, du jour où quelqu'un lui a attribué son nom, la rendant ainsi, aux yeux de tous, un continent à part entière? Eh bien, c'était le 25 avril 1507. Ce jour-là, peu de gens prêtent attention à l'impression, à Saint-Dié dans les Vosges, d'un document de cartographie. C'est un commentaire accolé à une grande carte du monde nommée Universalis Cosmographiae et dessiné par le moine géographe Martin Waldesmüller. 15 ans après que Christophe Colomb ait posé le pied sur une île des Antilles, ce document tiré à un millier d'exemplaires va révolutionner la perception qu'ont les hommes de leur planète en montrant que les terres découvertes par le navigateur génois constituent un nouveau monde et non pas un appendice de l'Asie. Par une singulière injustice du destin, ce nouveau monde va prendre le prénom d'un fringant florentin sans grand mérite. C'est le baptême officieux du Nouveau Monde. Le commentaire est intitulé « Cosmographiae Introductio » et dans le chapitre 9 de l'introduction à la cosmographie, on peut lire en latin l'acte de baptême du nouveau continent dont je vous lirai la traduction. Aujourd'hui, ces parties de la Terre, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, ont été plus complètement explorées et une quatrième partie a été découverte par Amerigo Vespucci, ainsi qu'on le verra plus loin. Et comme l'Europe et l'Asie ont reçu des noms de femmes, je ne vois aucune raison pour ne pas appeler cette autre partie amérigée, c'est-à-dire terre d'Amerigo, d'après l'homme sagace qui l'a découverte. On pourra se renseigner exactement sur la situation de cette terre et sur les coutumes de ses habitants par les quatre navigations d'Amerigo qui suivent. En regardant la marge, est donc imprimé pour la première fois le mot « America » appelé à une immense fortune. Ce livret de 52 feuillets comportant un planisphère maladroit dû aux lacunes sur la géographie de cette nouvelle découverte marque tout de même l'acte de naissance de l'Amérique, qui deviendra par la suite le phare du Nouveau Monde et resplendira de mille feux par ses mille talents et richesses pour devenir non pas le petit bout du planisphère, mais le véritable centre du monde à certains points de vue. Je vous laisse avec la Symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak, une véritable ode à cette grande célébrité, qui n'existe sous le nom d'Amérique que depuis 516 ans, jour pour jour.
Thank you.
Les biplettes, ça continue avec Louise.
Merci Miyako. La faiblesse de l'État portugais devient évidente dans le contexte global de l'année 1974. Il est remis en cause de l'intérieur par une partie des membres de l'Union nationale opposée aux guerres, une partie de l'armée, le MFA, qui s'oppose à l'intégration de civils parmi les officiers, et par l'Église, pourtant alliée traditionnelle, qui critique les massacres dans les colonies. La population est épuisée, à la fois par l'effort financier et humain de la guerre, mais aussi par la crise internationale de l'énergie de 1973, qui fait drastiquement monter le coût de la vie et enfler le chômage. Les travailleurs et les étudiants répondent par des grèves et des manifestations, tandis que les objectifs du MFA, initialement corporatistes, deviennent politiques. Ces oppositions au régime créent une situation de rupture importante qui engendre la révolution. À la démission de Spinola et Gomez, deux généraux influents, les militaires du MFA tentent un premier coup d'état militaire le 16 mars 1974, mais avant même d'arriver sur Lisbonne, ils sont arrêtés par les forces encore loyales du gouvernement. Un mois plus tard, aux premières heures du matin du 25 avril 1974, un nouveau plan d'action militaire est enclenché. Les capitaines du MFA parviennent cette fois-ci à prendre rapidement les points stratégiques du pays, comme la Banque du Portugal, l'aéroport de Lisbonne, et à contrôler les médias grâce à l'effet de surprise. Ils diffusent à la radio la chanson Grandola Villa Morena de José Alfonso, qui est interdite par la dictature.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena terra da fraternidade, grandola Vila Morena.
C'est le signal de départ de la révolution des œillets. La population descend pacifiquement en masse dans la rue pour saluer la fin prochaine du régime, malgré les instructions des putschistes. Ce coup d'État devient donc une révolution par la combinaison de deux éléments, le mouvement des forces armées et le peuple portugais. Le soir même, Caetano, le chef du régime, est destitué.
Mário Soares, secrétaire général du Parti Socialiste Portugais, vivait à Paris depuis 4 ans. Un exil qu'il avait librement choisi, laissant sa femme à Lisbonne, à la tête du collège privé, fréquenté par 200 élèves. Soares n'avait pas manqué d'expliquer dans les journaux parisiens ce que représentait pour lui la personnalité du général Spinola, alors que celui-ci venait de faire publier son livre « Le Portugal et l'avenir ». Dimanche, Soares, entouré de ses amis, qui ont abandonné la prison de Caxias, où certains étaient enfermés depuis 10 ans, Soares a demandé à ses partisans de saluer les forces armées, de penser à leur combat et de ne rien faire qui puisse ternir l'image du Portugal. Mário Soares et António de Spinola ne se connaissaient pas, ne s'étaient jamais rencontrés. Le leader socialiste voyait dans le militaire un troublion. Rien ne semblait devoir un jour les rapprocher pour arriver à une accolade dans la tradition ibérique, certes, mais qui, en termes politiques, veut signifier que l'union entre les Portugais est en train de se faire. Quel effet ? Nous sommes des frères, dira Spinola à Soares.
Ce triomphe se produit en quelques heures seulement et presque sans aucune effusion de sang. Si la police politique, la PIDE, n'a pas hésité à ouvrir le feu sur la population pendant une résistance éphémère, faisant 4 morts et 45 blessés, le MFA, lui, n'a pas tiré un seul coup de feu. Au bout des fusils des militaires, on trouve un œillet rouge, fleur offerte par les Lisboètes au capitaine. Le lendemain, le journal Le Monde titre « La révolution des œillets triomphe au Portugal ». Les filles, il faut y aller!
Et oui, c'est déjà la fin de notre émission. Mais ne vous inquiétez pas, car nous serons bientôt de retour pour de nouveaux événements.
En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site www.radiolfb.net. Laissez des commentaires, abonnez-vous et téléchargez notre programme.
Nous vous laissons avec Everybody Wants to Rule the World par Tears for Fears.
Au revoir et bonne semaine.